Bonjour, je suis Tayeb El-Mestari de la DREETS Nouvelle-Aquitaine. Ça a été déjà dit tout à l'heure, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc moi je suis au pôle solidarité et je m'occupe particulièrement de la mission protection des publics
Merci.
vulnérables et inclusion sociale. Et en charge de toute la question de la protection juridique des MGPM et des DPF. Je continue, tu te présentes après?
Non, ou
Ouais,
alors comme tu veux.
allez. Donc, cette question des MGA-GBF a été inscrite à l'ordre du jour du schéma régional 2020-2024, et c'est à l'occasion des rencontres territoriales pour l'élaboration de ce schéma que cette problématique était apparue. Le constat a été fait, en tout cas les remontées de terrain disaient, en tout cas des acteurs, qui sont en charge de constater que, il y avait une baisse du nombre de mesures, alors que c'était une mesure qui, quand même, présentait des aspects très positifs pour les familles et dans l'intérêt des enfants, et surtout pour les juges qui la considéraient comme une mesure efficace et très importante. Donc, l'idée a été de l'inscrire comme action du schéma 2020-2024. Et on a demandé à Bénédicte Marabé du CREAI de procéder à une enquête qu'on a lancée dernier trimestre 2022. On a réuni un comité de pilotage. Il y avait notamment Monsieur Cédric Ney, que j'ai vu tout à l'heure, Madame Despujol, et y compris Madame Isabelle Minot de Polaris. Donc c'est une enquête qui a permis quand même de voir quels étaient les freins. Elle va vous en parler, Bénédicte, tout à l'heure, quels étaient les freins, quels étaient les leviers possibles pour pouvoir faire en sorte que cette mesure soit à nouveau une mesure qui soit prise en considération de manière plus importante. Et donc, voilà, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de freins, comme par exemple la surcharge de travail chez les travailleurs sociaux ou le turnover qu'il y a dans les services départementaux. Et d'autres effets peut-être plus positifs qu'il va falloir promouvoir, comme la communication, comme l'inscription dans peut-être communiquer davantage dans les formations au sein des centres de formation des travailleurs sociaux. Donc, je laisse Bénédicte vous présenter plus en détail ce travail.
Merci, Taïeb, presque tout dit. Donc, bonjour, moi je suis Bénédicte Marabé, je suis responsable du pôle études et observations au CREAI Nouvelle-Aquitaine. Alors le CREAI, je vais éviter les sigles, hein, mais je vous en décline quand même quelques-uns. Le CREAI, c'est le centre régional d'études, d'action et d'information autour des populations en situation de vulnérabilité. Donc vulnérabilité au sens large, c'est les situations de handicap, de perte d'autonomie liée à l'âge, le champ de la protection de l'enfance, les publics en difficulté sociale, les majeurs protégés. Voilà. Et il y a les CREAI, ce sont des associations et il y en a un par région. Donc d'où que vous veniez, il y en a sûrement un. Il y a encore deux DROM où c'est pas installé, la Martinique et la Guadeloupe. C'est en voie de concrétisation en Martinique et on espère que ça va arriver très vite pour la Guadeloupe. Donc bon, là, vous connaissez par cœur les deux types de mesures sur lesquelles on a travaillé. Je ne vais pas revenir dessus. Donc comme le disait Taïeb, il y a ce paradoxe des mesures qui sont vraiment avec des retours positifs et finalement les juges qui disent, mais bon, nous, on nous saisit très peu pour ce type de mesures. Donc, on a conduit une étude qui s'est basée sur un état des lieux de ces mesures dans la région, des attentes des acteurs. Tous les services MGA-GBF, DPF de Nouvelle-Aquitaine ont été sollicités, il y en a 18, ainsi que les juges des enfants et les services des conseils départementaux en charge de l'enfance et de la famille. Il y a une analyse des schémas départementaux, enfance-famille, protection de l'enfance, une exploitation de données statistiques et démographiques, et donc il y a un comité de pilotage qui a suivi ces travaux. Alors voilà, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, la courbe, hein, du nombre de mesures MGA-GBF depuis 2014. Donc vous voyez que c'est plutôt une tendance à la baisse, mais sur les dernières années, une tendance à la stabilisation. Et après, si on essaye de se comparer à d'autres régions, on voit que finalement, par rapport aux autres régions françaises, il y a un groupe de 4-5 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, où on est plutôt au-dessus de la moyenne pour le recours à cette mesure au regard de la population, voilà, pour des éléments qu'on n'explique pas nécessairement et avec des recours aussi très différents selon les départements. Voilà, regardez justement en Nouvelle-Aquitaine le recours à cette mesure, donc le nombre de MGA-GBF pour 1000 familles qui ont au moins un enfant mineur. Donc en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, il y en a entre 2 et 3 familles qui sont concernées pour 1000, avec des écarts importants entre la Charente-Maritime et la Corrèze. Et le fait que le département soit confronté à une précarité assez importante rentre relativement peu en ligne de compte, puisqu'on voit que finalement le département où il y a le plus de recours, c'est la Corrèze, où il n'y a pas trop de signaux d'alerte concernant en moyenne la précarité, alors que le Lot-et-Garonne, où il y a beaucoup de difficultés, a plutôt un taux de recours assez bas. Alors, qui est à l'origine de la demande de MJA-GBF? Vous voyez que dans la moitié des cas, ce sont des travailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment très important de les mobiliser à l'existence et à l'intérêt de cette mesure. Dans 20% des cas, c'est dans un contexte d'investigation autour d'une situation qui a déjà donc fait l'objet d'un premier repérage avec une information préoccupante ou une mesure judiciaire d'investigation éducative. Et puis, il y a une autosaisine des juges qui apparaît dans 16% des cas, qui est encore relativement discrète, on va dire. Ça dépend des départements. Il y a des départements où ils sont plus enclins à s'autosaisir, mais c'est peut-être quelque chose qui va prendre davantage de place à l'avenir, vu le bon retour qu'ils font de cette mesure. Alors, quelques éléments toujours sur le contexte de mise en place de ces mesures. On a demandé aux services qui accompagnaient ces mesures qu'est-ce qui s'était passé avant. Alors, dans la moitié des cas, il n'y a pas eu d'autres mesures ou alors l'information n'est pas connue. C'est vrai que les systèmes d'information, les logiciels dont disposent les services ne permettaient pas toujours de faire ce tracé sur ce qui s'était passé avant. Dans un quart des cas, il y a déjà eu une mesure. Et 7%, c'est une MESF. Donc on voit que ça reste quand même une place discrète et qu'il n'y a pas de lien de corrélation directe entre les MESF et les MJA-GBF. On a fait une analyse par département que je ne vous présente pas ici, mais il peut y avoir des départements où il y a un très fort recours, un plus fort recours aux mesures administratives et puis faible aux mesures judiciaires et inversement. Concernant les caractéristiques des familles, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter par rapport à vos pratiques, les familles monoparentales sont très surreprésentées, hein, 60%, alors que dans la population générale, elles ne représentent que 24% des familles. Des familles plutôt nombreuses, hein, avec presque 3 enfants en moyenne par famille. 80% des familles qui ont au moins une dette. Et un pourcentage quand même relativement élevé, 8% des familles avec un parent très jeune, de moins de 21 ans. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans la très grande majorité des cas, les MJA-GBF sont doublés d'une mesure, en général une mesure de la protection de l'enfance, hein, que ce soit une mesure d'assistance éducative, voire une mesure de placement pour un ou plusieurs enfants de la fratrie. Et il y a déjà une technicienne en intervention sociale et familiale qui est en place dans 12% des cas. Alors, quelques éléments sur le bilan qu'on peut faire de la mise en place de ces mesures. Il y a un consensus qui est vraiment partagé pour dire que c'est une mesure pertinente, mais qui est freinée par divers éléments. Et ce constat positif, il est aussi partagé par les bénéficiaires. On a entendu ce matin Madame Évin, et ce qu'elle dit reflète tout à fait les observations des professionnels qui disent qu'au début, il y a quand même une réticence des familles à qui est proposé ce soutien, et puis qu'au bout du compte, voilà, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui leur permet d'être, devenir plus acteurs de leur vie, et c'est vraiment apprécié. Donc le retour que font les professionnels, les juges, etc., c'est que cette mesure permet une sécurisation du contexte de vie et un impact sur le maintien dans le logement. Voilà, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place au moment où une expulsion est presque imminente, et ça peut avoir un rôle de levier important. Et c'est aussi positif sur l'image renvoyée par la famille auprès des bailleurs sociaux, auprès d'autres acteurs qui se disent « bon, c'est bien, cette famille, elle est accompagnée, maintenant on est rassuré, ça va permettre de mieux gérer la situation ». Bien évidemment, ça a un impact sur les situations de surendettement. Et puis, ça, les familles gagnent vraiment en autonomie. C'est tout à fait ce que nous décrivait Madame Évin, avec une anticipation des dépenses dans une logique d'une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant. Donc, les familles sont restaurées dans leur rôle de parents, dans leur capacité. Et ça fait baisser aussi les tensions dans les familles, parce qu'il y a moins de tensions, moins de problèmes financiers, et du coup, les familles se sentent plus disponibles sur le volet éducatif. Voilà, et c'est vraiment cette plus-value de que les familles puissent davantage veiller aux besoins fondamentaux de leur enfant qui revient régulièrement. Mais pour que ces mesures soient efficaces, il faut un temps assez long. En moyenne, je ne sais plus si je le dis plus tard, mais les mesures en cours étaient pour plus de la moitié en cours depuis au moins 3 ans. Donc on voit que c'est quelque chose qui est important. Et le besoin d'accompagnement peut quand même persister une fois que la fin de la mesure est décidée. Donc il y a des questions qui se posent. Quels sont les relais qu'on peut mobiliser à la fin de l'MGA-GBF? Est-ce que les familles peuvent aller vers le droit commun, type les maisons départementales, de la solidarité, de l'insertion? Est-ce qu'on revient vers une mesure administrative de type MESF pour quand même accompagner et qu'il n'y ait pas de lâchage brutal? La fin d'une mesure aussi liée aux 18 ans du dernier enfant est jugée problématique, et avec la question pourquoi ne pas la prolonger au moins jusqu'aux 21 ans, hein, puisqu'il y a les poursuites d'accompagnement qui sont possibles. Donc le CNDPF, au moment où on faisait terminer ses travaux début 2023, disait que c'était une réflexion qui était en cours et qui allait être proposée au pouvoir public. Et puis aussi parfois la MGA-GBF n'est pas suffisante, et il y a d'autres mesures de protection plus contraignantes qui doivent être mobilisées. Alors, parmi les autres freins qui ont été évoqués par Tayeb El-Mestari, il y a quand même une méconnaissance globale de cette mesure par les professionnels, en particulier ceux qui sont censés signaler et orienter les familles. Donc il y a une confusion avec la mesure d'accompagnement judiciaire ou avec la mesure d'accompagnement social personnalisé, qui ne sont pas des mesures dans le champ de la protection de l'enfance. On fait le constat que ces MGA-GBF sont peu abordés dans les formations initiales des travailleurs sociaux, même s'il y a plusieurs services DPF qui nous ont dit venir faire des interventions dans le cadre de ces formations. Il y a un turnover aussi important dans ces services, donc certains sont sensibilisés et formés, et puis bon, ils partent et il faut recommencer. Et on a fait le constat aussi que dans les schémas enfance-famille des départements, on a étudié les 12 départements de la région, elle n'est pas bien, alors c'est une coquille, justement, c'est une mesure qui n'est pas bien identifiée en tant que mesure du champ de la protection de l'enfance. Elles sont parfois à peine citées au niveau des statistiques, mais dans les fiches actions, dans les plans d'orientation, elles sortent tout à fait des radars. Voilà. Et puis, ce qui revient aussi, c'est des représentations parfois erronées des travailleurs sociaux de ces mesures qui ont une réticence à signaler une famille, qui ont peur de la judiciarisation et qui ont aussi parfois des difficultés à évoquer ces questions financières avec des familles auxquelles ils peuvent apporter un soutien éducatif. Avec, le résultat, c'est qu'il y a peu de saisines des juges. Et pour continuer sur les derniers freins qu'on a pu identifier, il y a parfois un manque de fluidité dans le processus de demande qui peut un peu décourager donc des travailleurs sociaux qui font une demande, mais bon, l'inspecteur ASE ne la relaye pas, ou des propositions qui peuvent être formulées lors d'une information préoccupante, mais qui ne sont pas toujours suivies des faits. Et toujours ce que je disais, avec peu d'autosaisine des juges selon les départements. Et le constat de ces retards ou cette faible demande de MGA-GPF, c'est que ces mesures sont souvent demandées et prononcées très tardivement, avec des situations qui sont déjà très dégradées, des problèmes qui sont venus se surajouter. Le dernier enfant est déjà très proche de la majorité et la mesure sera très courte. Donc voilà, c'est difficile dans ces conditions de vraiment faire ce travail avec les familles pour les conduire vers l'autonomie. Voilà, alors l'étude aussi a permis d'identifier des leviers. Donc c'est toutes les actions de communication qui peuvent être conduites en particulier par le Carrefour national et ses déclinaisons régionales, par les services d'EPF, auprès des conseils départementaux, auprès des services de l'ASE, et puis aussi auprès des professionnels de terrain qui sont en lien avec le logement. On a parlé notamment je ne me souviens plus du décliné, mais d'une commission qui gère les expulsions. C'est vraiment des services auxquels qu'il faut sensibiliser pour que ces mesures puissent être déployées à bon escient. Dans le cadre des formations, qu'elles soient initiales ou continues, alors les travailleurs sociaux, mais aussi les magistrats, ont très peu vu ces mesures abordées dans le cadre de leur service. Une façon d'intervenir de façon plus coordonnée avec les professionnels de la protection de l'enfance, l'articulation entre les mesures contractuelles et judiciaires, les dispositifs de placement éducatif à domicile pour permettre un retour à domicile des enfants de façon plus sécurisée. Et puis, pour que les professionnels aussi se connaissent mieux, il nous paraissait aussi intéressant de développer les stages croisés. Alors, ça, localement, ça peut se mettre en place entre des professionnels de l'ASE et des professionnels d'EPF, pour que chacun voit les aspects du travail de l'autre et se décentre un petit peu de son univers et de ses propres missions. Et puis, mieux communiquer aussi sur les plus-values apportées par les MGA-GBF. Donc, le partage d'expériences, des expériences vécues par les familles bénéficiaires, c'est ce qu'on on a eu ça ce matin. Et c'est vrai qu'une famille qui peut être réticente va être plus facilement convaincue si elle entend une autre qui en a bénéficié et qui peut lui parler de cette plus-value. Et puis, voilà, développer donc toujours les interventions des DPF pour informer sur ce type de mesures auprès des travailleurs sociaux. Voilà. Et comme dernière proposition, on proposait c'est des propositions qui sont remontées de l'enquête de terrain et puis du comité de pilotage, de rendre systématique une évaluation de la situation financière et matérielle des familles dans tous les rapports AEMO, MJE, PEAD, et qu'ils soient remis aux juges en même temps que ces évaluations éducatives. Retenir une échéance commune pour les mesures éducatives et les MGA-GBF concernant une même famille. Donc ça permet d'avoir une audience commune, et c'est une pratique qui est déjà effective dans certains départements de Nouvelle-Aquitaine, avec des retours très positifs. Et puis, étendre éventuellement le périmètre légal de l'AMGA-GBF à l'ensemble des prestations sociales y compris par exemple l'AAH, quand il y a un des parents qui est en situation de handicap, lorsque les ressources en sont exclusivement composées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous avez le lien pour télécharger l'étude.
Merci beaucoup pour ce compte-rendu d'études. Vous avez pu noter, vous retrouverez le diaporama sur le site. Je pense que malheureusement, ça fait 25 ans que nous parcourons la France entière avec notre bâton de pèlerin pour raconter notre histoire. Je pense que oui, ils ont besoin d'être appareillés au niveau des oreilles, où ils n'ont pas connecté tous les neurones, mais ça fait quand même 25 ans qu'on prône exactement ce que vous dites, et c'est parfait parce que ça nous conforte dans notre analyse et dans nos ressentis et dans nos sentiments, et c'est bien qu'il y ait une analyse qui le prouve, mais ça fait quand même 25 ans que nous disons on est protection de l'enfance, on peut sécuriser des familles, on peut éviter des placements, on pourrait travailler avec l'ASE, voilà. Donc merci beaucoup. On aura encore une pierre de plus pour avancer dans nos négociations, mais c'est vrai qu'on a un peu le sentiment, c'est le tonneau des Danaïdes quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup.